Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, je vous propose aujourd'hui de vous faire un portrait de Gottfried Leibniz. Pourquoi Gottfried Leibniz? Bien, tout simplement, en ayant préparé la conférence que je vous ai donnée le 16 janvier sur Newton, on voit apparaître Gottfried Leibniz, et cet homme que je connaissais beaucoup moins que Newton m'a intéressé, et donc j'ai accumulé une documentation suffisante, j'espère, pour pouvoir vous en restituer l'essentiel. Donc l'objectif de cet exposé est essentiellement historique, d'essayer de voir comment cet homme extraordinaire s'insère dans son temps, et quelles ont été ses œuvres et quelles ont été ses interactions fort nombreuses avec son environnement. Alors voilà, pour démarrer comme toujours, une galerie de portraits. Il a été beaucoup portraituré puisque c'était un homme de cour et qui fréquentait les grands de ce monde. Et il est toujours dans un appareil, au sens architectural du terme, impressionnant. Quand on voit le tableau de droite, même à la fin de sa vie, là c'est après 1700, on le moquait pour le gigantisme de ses perruques, qui était un peu passé de mode à l'époque. Donc, je vous fais remarquer, il est complètement contemporain de Louis XIV, pour bien situer l'homme. Alors, un petit panorama rapide sur l'histoire, puisqu'il faut la connaître un petit peu pour comprendre un certain nombre de ses réactions, une fois de plus. Donc, vous savez, vu son nom, c'est un homme d'origine allemande, qui vient de l'Allemagne centrale. Et l'Allemagne, lorsqu'il naît, sort d'une période terrible, qui est la guerre de 30 ans, et qu'on estime être aussi dévastatrice au niveau démographique et au niveau des ravages que la Deuxième Guerre mondiale. On a perdu ça dans notre inconscient collectif, mais l'Allemagne était complètement ravagée. Donc ça a laissé des traces dans la sensibilité allemande. Les provinces unies se constituent. Les provinces unies, je rappelle, c'est la partie nord des anciens Pays-Bas espagnols qui, après de très longues guerres, qui ont duré plus de 70 ans, se sont libérées de la tutelle des Espagnols. Quasiment simultanément, il y a l'épisode dictatorial de Cromwell, hein, qui a duré une dizaine d'années, qui s'appelle la première révolution anglaise, assez sanglante, surtout en Irlande. Et c'est le début de l'expansionnisme français de Louis XIV qui ne fait que perpétuer la politique de ses prédécesseurs, Louis XIII et même Henri II. Ça commence au XVIe siècle. Et on y reviendra puisque les positions politiques Leibniz était marqué par une position anti-française, au sens politique du terme, constante pendant toute sa vie, pour essayer de résister à l'expansionnisme français. La glorieuse révolution, dont j'ai beaucoup plus parlé la fois dernière, donc la glorieuse révolution, c'est l'arrivée de Guillaume d'Orange comme roi d'Angleterre en 1689 et la véritable fondation de la monarchie constitutionnelle en Angleterre. Et l'acte d'installation 1707, c'est l'acte qui crée la Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'union politique de l'Angleterre et de l'Écosse. Voilà le Saint-Empire romain germanique à la naissance de Leibniz. Vous voyez cette mosaïque absolument impressionnante de petites principautés et de plus grandes, puisque à l'époque, ce qui est le plus grand, vous voyez, c'est le royaume de Bohême. C'est un mot, la Bohême, on la citera souvent dans l'exposé. Vous voyez les provinces unies, donc qui sont indépendantes maintenant de l'Espagne. ce qui est les Pays-Bas espagnols, dans lequel il y aura beaucoup d'événements militaires pendant toute la vie de Leibniz. Et je vous fais remarquer, si vous devinez les frontières actuelles de la France, et voilà où s'arrêtait la France à la naissance de Leibniz. Vous voyez la Franche-Comté, la Lorraine et l'Alsace. Et ici, il y a déjà quelques incrustations du territoire français. Et ça va être, pour les rois de France, une politique constante d'essayer de grignoter ces parties sur le duché de Lorraine, qui a beaucoup résisté. Voilà un zoom qui correspond plus à la période adulte de Leibniz, qui montre l'électorat de Brunswick-Lunebourg, qui sera la principauté qui va être le deuxième mécène de Leibniz dans sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, donc, dont la capitale est Hanovre. Voilà une autre carte du duché de Hanovre. Alors, je vous montre trois autres noms qui sont importants à retenir. C'est Celle, on prononce Celle, Lunebourg et Wolfenbüttel, qui sont des cousins duc qui tient le duché de Hanovre, et entre lesquels il y a eu des bisbilles, et plus que des bisbilles, des petites guerres d'annexion. Et M. Leibniz, dans sa grande sagesse, avait réussi à manger à tous les râteliers et à se faire nourrir par tous ces ducs ou sous-ducs, aux grandes dames des uns et des autres, suivant les périodes. Alors, venons-en proprement dit à la biographie de Leibniz. Alors là, en une page, les principales étapes. Donc, enfance et adolescence à Leipzig. Il passe son doctorat à Altdorf. Il n'y reste qu'un an. Je vous montrerai où se trouvent ces différentes villes sur une carte. Son premier protecteur, c'est l'électeur de Mayence. Ça a duré 8 ans, comme vous le voyez. Ensuite, à la fin de cette période, il fait un voyage et à Paris et à Londres. Il réside à peu près 4 ans à Paris. Ensuite, son second protecteur, c'est le duc de Brunswick, comme je l'ai dit, tout simplement parce que l'électeur de Mayence, comme tout homme, a fini par décéder. Et donc, il lui a fallu retrouver un deuxième mécène pour avoir des moyens de subsistance. Et il meurt à Hanovre en 1716. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant. Qui est Gottfried Leibniz? C'est le fils d'un professeur de philosophie morale à l'université de Leipzig. Donc, formation à caractère juridique, essentiellement. Et d'ailleurs, la formation de base de Leibniz, c'est une formation de juriste. Alors, il est élevé par sa mère dans une foi profonde, puisqu'il est orphelin assez tôt, et il apparaît qu'il est bien sûr surdoué, puisqu'il a une maîtrise et une intelligence qui lui permet de maîtriser le latin à 12 ans. Alors, comment a-t-il fait ? Eh bien, là, on a peu d'éléments historiques, mais sa mère lui a donné l'autorisation d'utiliser la bibliothèque de son père, qui était, lui, déjà un érudit, et il aurait appris seul, bon, on peut quand même en douter, il avait certainement des précepteurs, enfin, il avait des capacités telles qu'il avait une maîtrise du latin écrit et certainement parlé à 12 ans, ce qui est quand même exceptionnel. Il entre à l'université à 14 ans, ce qui n'est pas exceptionnel à l'époque, contrairement à une idée qu'on pourrait s'en faire aujourd'hui, c'était un petit peu la pratique. Et il est bachelier en philosophie à 16 ans, et sa thèse s'appelle Disputatio Metaphysica de Principio individui. Ensuite, il veut passer sa thèse et il est tellement jeune que ses coreligionnaires ou ses condisciples font barrage pour qu'il n'ait pas l'autorisation de passer sa thèse. Parce qu'il fait un peu de l'ombre, vous savez, c'est le premier de la classe, et donc on le regarde un petit peu de travers puisqu'il est beaucoup trop brillant par rapport à ses collègues. Et donc, ce sera la raison pour laquelle il quittera Leipzig pour aller à Altdorf qui est près de Francfort. Je vais vous montrer une carte. Voilà. J'y reviendrai plusieurs fois. J'ai tracé sur cette... Non, près de Munich, je dis une bêtise. J'ai tracé sur cette carte les voyages principaux de Leibniz. Leibniz est un grand voyageur. Pendant toute sa vie, il passera son temps dans les fiacres et les carrosses. Voilà les différents voyages qu'il a pu faire. Alors, vous voyez son lieu de naissance, Leipzig, ici. Altdorf, ici. Premier protecteur, Mayence. Près de Francfort, voyage à Paris, voyage à Londres, et quand il ira à Hanovre avec son second protecteur, il repassera par Amsterdam, j'en parlerai, où il aura des rencontres philosophiques très fructueuses. Il ira bien sûr à Berlin, à Prague, à Vienne et en Italie, pour des raisons que je vous indiquerai. Donc je reviens sur la biographie, voilà. Donc, à Altdorf, il passe sa thèse de doctorat. Et on aurait pu penser, évidemment, il est remarqué pour ses qualités intellectuelles tout à fait exceptionnelles, mais le lieu ne lui plaît pas. Et par des circuits qui sont difficiles à identifier, il va trouver son premier protecteur. Et on pense que la façon dont il a procédé, c'est qu'il s'est introduit dans des cercles alchimistes de Nuremberg. Je rappelle que l'alchimie, c'est de l'occultisme, et le principe même de l'alchimie, c'est d'être secret. Donc pour les historiens, c'est pas très facile de retrouver les traces de ce qui s'est passé. Et voilà son premier protecteur, donc qui s'appelle Johann Philipp von Schönbrunn, Schönborn, c'est le portrait du protecteur, et son premier ministre, c'est Johann Christian von Beuneburg. Et c'est le premier nom qu'il faut vraiment retenir, puisque c'est lui, on va dire, qui l'a lancé, puisque c'est ce personnage a la particularité d'être un écrivain, un épistolaire compulsif. Et il avait déjà une liste de correspondants tout à fait impressionnante, et c'est à travers lui qu'il a pu accéder très rapidement à l'ensemble de l'Europe érudite de l'époque. Comment il l'a connu ? Eh bien, certainement par les cercles alchimiques, puisque ce personnage faisait partie d'une communauté d'alchimistes. Bien sûr, l'alchimie, ce n'est pas un métier qui est bien rémunérateur, au sens de, on ne peut pas utiliser cette étiquette pour obtenir un viatique. Donc, on utilise ses compétences juridiques. Et là, il y a du travail. Et donc, l'électeur lui demande de faire une remise à plat de tout l'appareil législatif de son comté, enfin, et qui est très complexe puisqu'il y a un mélange de droit romain et de droit germanique et de, comme la common law un petit peu, du droit coutumier, qui est très complexe. Leibniz, il a 20 ans, hein, s'en débrouille comme un chef et en un an et demi remet tout ça à plat et il éblouit tout l'entourage par ses qualités de juriste. Il va même jusqu'à inventer une méthode d'enseignement de la jurisprudence. Donc on verra déjà à travers cet ouvrage, on voit ses capacités à ordonner la pensée, à ordonner les idées, à avoir des méthodes de travail. Et ça, ce sera une constante dans l'ensemble de son œuvre. Et il arrive comme assesseur à la cour d'appel en 1668. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là? On va voir que Leibniz, c'est un homme qu'on appelle en anglais polymathe, on va dire polyvalent, qui sait tout faire, qui a envie de tout faire, et qui est absolument incorrigible parce qu'il veut changer la face du monde dans tous ses aspects. Et il arrive à convaincre les lecteurs d'accompagner son premier ministre von Boenburg à Paris pour faire une mission diplomatique auprès du roi Louis XIV, en essayant de le convaincre qu'il arrête ses visées expansionnistes sur la zone germanique. Alors, M. Leibniz a inventé un plan extraordinaire qui consiste à dire: je vais aller voir Louis XIV et je vais lui proposer la chose suivante. Arrêtez de nous embêter, nous les Allemands, et vous allez envahir l'Égypte pour barrer la route des Indes. À l'époque, il n'y a pas encore l'Angleterre sur ce circuit-là, mais plutôt les Provinces-Unies. Et comme ça, ça vous donnera matière à dépenser votre énergie colonisatrice dans des contrées lointaines, mais laissez-nous la paix. Alors, quand l'électeur a entendu ça, il a été un peu surpris, et il a dit: bon, écoutez, allez-y, mais il a dit à von Boenburg: vous le surveillez bien, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il me fasse des incidents diplomatiques. Alors, je vous rassure tout de suite, malgré tous ses efforts, il n'a pas réussi à approcher Louis XIV ni ses principaux ministres. Et donc, il est resté quand même 4 ans, avec un voyage intermédiaire, comme je l'ai dit, en Angleterre. Et donc, il n'est pas resté sans rien faire. C'est impensable pour un homme comme Leibniz. Et il s'est mis à fréquenter tous les cercles intellectuels parisiens. Et à l'époque, Paris, c'est vraiment la capitale intellectuelle de l'Europe, qui dépasse même Londres. Hein. Y a pas de discussion pour ça. Et donc, j'ai cité quelques noms ici: Malebranche, Arnaud, Huygens. Alors là, le portrait que je montre, c'est Christian Huygens, comme je le disais tout à l'heure. Christian Huygens, c'est le découvreur de Titan, la première lune de Saturne, enfin la plus grosse lune de Saturne. D'ailleurs, c'était son surnom à Huygens, on l'appelait Titan, familièrement. Et qui a fait beaucoup de travaux sur l'optique en particulier, et qui est devenu le premier secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences française. Ce qui paraît quand même un petit peu curieux, c'est que le premier secrétaire perpétuel soit un Hollandais. Alors, tout simplement parce que c'est Colbert qui l'a pistonné, ou qui l'a nommé, ou qui l'a fait nommer Louis XIV à ce poste-là, tout simplement parce que Colbert, qui était l'homme puissant à cette époque auprès de Louis XIV, était très lié avec son père Constantin Huygens, qui était le secrétaire du Statuteur hollandais, qui était Guillaume d'Orange II, donc le père de Guillaume d'Orange qui deviendra roi d'Angleterre. Et en fréquentant M. Huygens, eh bien, Leibniz prend conscience de sa faiblesse relative en mathématiques. Et on va dire que les mathématiques, il fera un pas significatif dans la connaissance des mathématiques grâce à ses relations avec Huygens. Alors, ce qu'il cherchait manifestement à faire, il a dit: bien, puisque Huygens a réussi à avoir un poste officiel à l'Académie des sciences, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Seul le résultat compte, c'est-à-dire il n'y est pas arrivé. On ne sait pas très bien pourquoi. La véritable raison, c'est qu'il n'avait pas d'appui politique haut placé du côté des princes allemands, si vous voulez. Ce qui n'était pas le cas de Huygens, bien sûr. Pendant sa période parisienne, il aura de très nombreux contacts, et en particulier la possibilité d'accéder à des écrits qui n'ont jamais été publiés, et de Pascal et de Descartes. Et on connaît l'existence de ces œuvres-là grâce aux copies qu'il en a faites de sa blanche main. Je rappelle quand même que la photocopieuse, malheureusement, n'existait pas à l'époque, et que quand on voulait garder des documents, eh bien, il fallait recopier à la main tous ces documents. Alors, à Londres, on va retrouver un personnage dont nous avons déjà parlé, c'est Oldenburg. Oldenburg, c'est l'équivalent de Christian Huygens à la Royal Society, c'est le secrétaire de la Royal Society, et il a l'avantage d'être allemand. Donc, il se connaissait déjà d'une façon épistolaire, et donc Oldenburg va être le go-between, comme on dit en français, pour l'introduire dans la bonne société anglaise, et en particulier à la Royal Society. Et à la Royal Society, il montre des plans et une ébauche d'une machine à calculer qui est une amélioration de la machine de Pascal, une machine à engrenage qui permet de faire les quatre opérations, ce que ne savait pas faire la machine de Pascal, qui faisait que des additions et des soustractions. Donc, ébloui, comme l'ont été les membres de la Royal Society par le télescope de Newton, ils ont été éblouis par la machine à calculer de Leibniz, et instantanément, il a donc été nommé correspondant étranger de la Royal Society. Et là arrive un épisode qui va gérer une polémique pendant les décennies et les siècles qui suivent, c'est qu'il a l'occasion de rencontrer Collins. Collins, c'était l'imprimeur potentiel de Newton, qui détenait des écrits dans lesquels les ébauches du calcul différentiel avaient été décrits. Et il est vraisemblable qu'il a pu consulter ces documents. Ça ne gâche rien sur l'originalité de ses travaux, mais il est vraisemblable qu'il a accès à ses travaux. Il retourne à Paris. Et pourquoi retourne-t-il à Paris? Parce qu'à Londres, un courrier lui a appris que son mécène, son protecteur, est mort. Non seulement son protecteur, mais également von Brandenburg, qui est donc le premier ministre de son protecteur. Donc ces deux sponsors étant défaillants, ils se retrouvent, on dirait, au chômage. Et donc il faut absolument trouver du travail. Lui, il en trouvera toujours. Le problème, c'est de trouver des ressources financières. Je rappelle qu'il, lui, n'a pas de propriété terrienne. Il n'a aucun revenu permanent qui lui permette de vivre. Fort heureusement, il commençait déjà à être connu dans le milieu des savants, ou le milieu des intellectuels, et il avait eu une invitation du duc de Hanovre qu'il avait poliment déclinée parce qu'il se trouvait très bien à Paris, et donc il n'avait pas du tout envie de retourner en Allemagne, et il espérait toujours trouver une place intéressante, entre autres à l'Académie des sciences. Rétrospectivement, on pense, d'après la datation des papiers, que l'essentiel de ses travaux mathématiques et physiques ont pris corps pendant sa période parisienne. Donc on les date à peu près de 75-76. D'ailleurs, en 1976, les deux fameuses lettres, les deux seules uniques lettres échangées entre Leibniz et Newton, date de 1676, à 4 mois d'intervalle, dans lequel c'est Leibniz qui pose des questions sur des tas de sujets, mais incidemment sur les ébauches du calcul différentiel. Et Newton lui répond en disant « Oui, oui, j'ai une méthode qui est très bien, et je vais vous la dire, elle est comme ça », et il met un cryptogramme qui est absolument indéchiffrable sans avoir le code. Et il utilisera, ce stratagème pour revendiquer ultérieurement la priorité de la découverte du calcul différentiel. Il fait également des travaux horloge à double balancier, ça c'est certainement sa proximité avec Huygens. Je rappelle qu'à l'époque, un des grands travaux, Huygens est crédité du mécanisme à échappement des horloges, bien que ce soit aussi contesté, puisque tout le monde travaillait sur tout, il faut bien qu'on mette un nom sur une invention. Oldenburg a aussi prétendu qu'il était aussi l'inventeur de ça. Le ressort spiral, qui est un complément du mécanisme à échappement, c'est Hooke qui l'a revendiqué, Oldenburg aussi, etc., etc. Alors, comme je viens de vous le dire, il finit par accepter le poste à Hanovre, puisqu'il faut bien vivre. Et donc, mais à l'époque, entre l'acceptation de l'embauche et le travail effectif, il s'est quand même passé 2 ans. Il a un peu musardé sur le chemin pour rejoindre son poste de travail. Et donc, il est retourné à Londres et il est allé à Hanovre en passant par Amsterdam. Et là, il a rencontré, entre autres, 2 personnages célèbres aujourd'hui. Leeuwenhoek, qui est l'inventeur ou le perfectionneur du microscope, et Spinoza, le philosophe, avec lequel il aura des échanges très vifs, mais certainement très fructueux. Et certains exégètes disent, quoi qu'il en dise, on retrouve du spinozisme un petit peu dans une partie de ses écrits. Mais ça, je laisserai les exégètes en parler, puisque je ne suis pas un spécialiste. Donc, la fonction qu'il occupe à Hanovre, c'est d'être le bibliothécaire du duc. Toute cette famille a une tradition d'érudition. Je vous ai dit, il y a beaucoup de cousins dans les différents princes de Hanovre qui se font de la concurrence, en particulier celui de Wolfenbüttel. Aujourd'hui, cette bibliothèque existe, elle s'appelle la bibliothèque Augustine, elle existe toujours, c'est la plus belle bibliothèque du XVIIe siècle en Allemagne. Elle est 3 étoiles au Michelin. Donc, si vous voulez voir quelque chose, allez à Wolfenbüttel. Donc, malheureusement, Wolfenbüttel aime les Français, donc ça le gêne un petit peu. Alors, voilà la galerie de portraits des ducs de Hanovre. Celui qui l'embauche, c'est celui-là, Johann Friedrich, qui décède en 1679, et c'est son frère, Ernst August, qui lui succède et qui a le bon goût de prolonger son contrat de travail. Voilà. Et ensuite, le fils Ernst August, c'est George Ludwig, qui deviendra George Ier d'Angleterre, par des péripéties sur lesquelles nous reviendrons. Donc, tous ces ducs sont des érudits, ce qui n'a pas toujours été le cas dans la descendance ensuite du côté de la branche prussienne. Vous vous souvenez du père de Frédéric II, c'était pas moins intellectuel. Le roi soldat c'était pas très intéressé par les choses de l'esprit, mais cela sortait un petit peu du rang, et on verra également que leurs épouses étaient des intellectuels de l'époque. Nous en parlerons. Alors, que fait-il ici? Eh bien, Leibniz est un actif absolument indéfectible, et il faut qu'il fasse tout et n'importe quoi. Et en particulier, il s'est mis dans la tête de manager les mines du Harz. Alors, qu'est-ce que ce, le Harz, c'est une ligne de collines montagneuses qui sont près de Hanovre, dans lesquelles il y a des mines d'argent. Et la principale ressource financière du duché de Hanovre, ce sont les mines d'argent. Et Leibniz, indécrottable, va là-bas, sans qu'il ait de mission particulière pour ça, en disant, je vais vous expliquer comment il faut faire. Donc d'abord, il y a des problèmes d'extraction, il faut concevoir des wagonnets, il faut faire des pompes pour pomper l'eau dans les mines, il faut améliorer le processus d'extraction d'argent, il faut désaliniser l'eau, etc. Et il lance des projets tous azimuts. Et tout ça, ça coûte bien sûr de l'argent, et tous les conseillers du duc voit ça évidemment d'un très mauvais œil en disant qu'est-ce que c'est que cette énergumène qui vient semer la panique dans notre système et faire dépenser des sommes extraordinaires sans beaucoup de succès malheureusement pour la raison que j'ai mis dans cette planche, c'est qu'il commence tout et il ne finit rien. Le type est tellement brillant qu'il n'arrive pas à avoir une équipe de collaborateurs autour de lui qui lui permet de démultiplier les instructions qu'il donne. Et donc, tout se termine un petit peu en autre boudin. Et ça, évidemment, ses concurrents dans le conseil du duc de Hanovre, lui mettent un peu la tête sous l'eau en disant, mais non, vraiment, c'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'il fait là? Cet homme-là, c'est pas régulier. Hein. Et les techniciens sont certainement fort agacés de ce conseiller qui les harcèle en permanence en disant il faut faire comme ci, il faut faire comme là. On imagine. Il suffit de regarder ses portraits, essayer de l'imaginer en train de donner des instructions. Ah, voilà la bibliothèque Augustine à Wolfenbüttel, c'est son état actuel, et voilà une gravure de l'époque avec le duc. La génération précédente, qui était un érudit qui avait fait donc cette bibliothèque qui était la plus grande de l'époque. En 1694, il a fini par trouver un secrétaire à sa mesure, d'abord qu'il s'entende bien avec lui, ce qui ne devait pas être très facile, et il le garde jusqu'à la fin, Johann Georg von Eckart. Et c'est grâce à lui que la plupart de ses papiers ont été conservés, puisque le travail de secrétaire, ça consiste essentiellement à faire des copies, c'est-à-dire à bien réécrire sans rature ce que le maître a écrit et d'en garder un double précieusement. Et les matériaux de sa correspondance, c'est à travers les travaux Descartes qu'on a pu le reconstituer. Alors, non seulement il s'est occupé des mines, il s'est occupé de l'industrie du lin, il s'est occupé de manufacture de porcelaine, de la politique monétaire du duché de Hanovre, il a proposé de faire des assurances sociales, etc., etc., etc. Essayez d'imaginer un homme comme ça qui fourmille de projets et qui exaspère non seulement la noblesse, mais également tous les collaborateurs directs du duc de Hanovre, qui le tenait un petit peu d'ailleurs à distance. Donc, comme je vous l'ai dit, le premier duc décède, son frère a le bon goût de le garder auprès de lui, et lui, il lui demande une tâche particulière en disant, écoutez, vous allez me faire quelque chose, c'est faites-moi une notice biographique et généalogique pour montrer que la famille des Brunswick a une ascendance prestigieuse, en particulier du côté de la famille d'Este en Italie, les Guelfes, hein, et si vous pouvez remonter même avant Charlemagne, ça serait encore mieux, puisque l'objectif de beaucoup de ces duchés, c'était de se hisser du col pour arriver à avoir le titre de roi. Hein. Il y avait très peu de rois, sauf le roi de Bohême, dans le Saint-Empire romain germanique. Il y avait des princes, il y avait des ducs et tout ce qu'il y avait en dessous, mais duc, c'est pas roi. Hein, voilà. Et dans toutes ces querelles dynastiques, évidemment, plus on peut montrer de quartiers de noblesse, exactement comme en France, eh bien, plus on peut revendiquer des prétentions élevées en politique. Et alors là, il a joué, comme je l'ai dit tout à l'heure, un jeu très subtil, en se faisant subventionner alternativement par différents cousins des ducs, aux grandes dames des autres, et certaines années, c'était tel ou tel duc qui le finançait, et telle autre année, ça changeait. Quand on a fait les comptes dans la caisse à son décès, il s'était bien débrouillé, il avait réussi à manger à suffisamment de râteliers pour pouvoir subsister. Bien que dans toute sa correspondance, il se plaint d'une façon récurrente sur ses problèmes d'argent. Il lui faut de l'argent, il lui faut de l'argent. Voilà, c'est le nerf de la guerre. À la fin de sa vie, il rencontrera entre autres Pierre le Grand. C'est Pierre le Grand qui vient le voir, puisqu'il est déjà connu dans les cercles intellectuels. Et d'aucuns auraient dit qu'il l'aurait pris pour le fou du duc de Wolfenbüttel, parce qu'il est tellement, avec sa grosse perruque, il l'avait trouvé un petit peu déjà déjanté. Hein. Jugement de Pierre le Grand, je cite mes sources. À la fin de sa vie, il aura un court séjour de 2 ans à Vienne, puisque même les ducs de Hanovre, ça ne suffisait pas pour ses honoraires, donc il est allé solliciter l'empereur Léopold, qui lui a donné quelques subsides. Et il est mort dans une relative indifférence, dans une grande indifférence, à Hanovre en 1716. On a du mal un peu à comprendre pourquoi il est mort, dans une certaine indifférence. Certains exégètes disent que c'était lié au fait qu'il avait fini par exaspérer tout le monde par sa suffisance et son orgueil, on l'avait assez vu, et donc on n'a pas su où il a été enterré. Seul son secrétaire est allé, c'est un peu le même scénario que Mozart. Il était passé de mode, en fait. Seul son secrétaire a suivi son inhumation, et son protecteur, qui était déjà à cette époque-là le roi Georges Ier d'Angleterre, mais qui était physiquement en Allemagne, à Hanovre, au moment de son décès, n'est pas venu à son enterrement. Voilà, donc voilà très rapidement sa biographie, et on va essayer de cerner l'homme dont j'ai donné quelques traits de caractère en passant à travers un certain nombre d'épisodes. C'est un célibataire, il sera toujours célibataire, et on n'a aucune relation d'intérêt particulier pour les dames. Alors on va dire, ben, il avait d'autres mœurs. Non, enfin on ne sait pas. Mais au contraire, les dames l'appréciaient beaucoup. C'était un homme de cour, puisque la duchesse d'Orléans a dit de lui qu'il était plaisant, qu'il sentait bon et qu'il était bien habillé, ce qui était exceptionnel pour un intellectuel de l'époque. Donc, je vous cite mes sources encore une fois. Hein. Et donc, c'était l'anti-Newton, si vous voulez, de ce point de vue-là. Autant Newton était l'ermite dans sa chambre, autant lui était extraverti et aimait la compagnie, la société brillante et intellectuelle. De toute façon, pour lui, son niveau d'interlocuteur, c'était les rois. C'est-à-dire, quand il écrivait des lettres, il écrivait à Louis XIV directement. Il écrivait au pape, Monsieur Leibniz. Pas de problème, il n'avait pas de difficulté d'écrire aux grands de ce monde. Il est très conscient de ses capacités, toute sa vie en témoigne, il brille dans les salons et les cours, et surtout, il n'en fait qu'à sa tête, il est quand même terrible, il n'en fait qu'à sa tête. Il n'en fait qu'à sa tête, mais c'est une conséquence directe de son aspect surdoué. Hein. Voilà. Il a des connaissances encyclopédiques, il touche à tout, débute tout et ne finit rien. Ça a été ça son grand défaut, finalement. Et c'est un travailleur et voyageur compulsif jusqu'à la fin de sa vie. Un point tel que dans ses nombreux voyages, il fallait qu'il ait la possibilité d'écrire dans son carrosse. Vous vous souvenez de la sophistication des suspensions des carrosses de l'époque. Essayez d'imaginer d'écrire dans ses carrosses. Eh bien, il avait inventé un système de suspension de son écritoire à l'intérieur du carrosse qui lui permettait de limiter l'amplitude des chaos de la route. Et il a fait des mémoires sur la suspension des carrosses pour traiter ce problème-là. Donc il n'y a pas que la métaphysique chez Leibniz. Alors, d'aucuns ont pu dire qu'il apprend les sciences en les réinventant. Je crois que cette phrase-là définit assez bien le personnage. C'est-à-dire la première étape consiste à copier tous les textes qu'il est en train de lire. Newton faisait la même chose, mais en même temps qu'il copie, il trouve des évolutions et des généralisations que les œuvres qu'il est en train de lire n'adressent pas. Il classe bien ses papiers. Et après, il a un secrétaire qui les classe bien. Et donc, on estime aujourd'hui qu'il y a 200 000 feuilles de correspondance dans l'ensemble de son œuvre, dont 15 000 lettres, avec 1100 correspondants. 40% de ces œuvres sont en latin, 35% en français. Je rappelle que le français, c'est la langue érudite de la fin du XVIIe. C'est la langue des diplomates. Et jusqu'à ce que M. Clémenceau accepte que l'anglais soit dans le traité de Versailles. M. Clémenceau, quand même. Alors, il semble qu'il pense en latin, puisque toutes ses notes de coin de table sont écrites en latin, et qu'ensuite il traduit soit en français, soit en allemand. Même l'anglais, on a peu de textes écrits de sa main en anglais, mais beaucoup d'indices qui permettent de penser qu'il lisait très bien l'anglais. Et en particulier, la correspondance avec Clark est faite dans le sens anglais sur Leibniz. Clark, du côté de Leibniz, est faite en anglais et non pas en latin. Donc il va être capable de le comprendre, surtout vu la sophistication des sujets. Ah, il aime le débat, j'ai mis entre parenthèses la polémique, point d'interrogation, c'est un débatteur impénitent, c'est un philosophe, voilà. Donc c'est bien dans l'esprit des anciens. La façon dont ces textes sont mis, c'est des paragraphes relativement courts, d'une dizaine de lignes, avec des numéros. Et certaines de ces correspondances, il y a des lettres qui vont jusqu'à 450 paragraphes. Donc c'est très touffu et très difficile à lire. Persuadé d'avoir toujours raison, c'est un philosophe. N'est-ce pas ? Je fixe notre collègue philosophe. Écrit structuré, relativement court, paragraphe numéroté, un seul thème par paragraphe. Alors j'ai mis cette phrase-là qui est extraite d'un de ses courriers qui date de 1695. Alors je l'ai trouvé qu'en anglais, je me suis permis d'en faire la traduction en français, je lis le français, je ne peux vous dire à quel point je suis extraordinairement distrait et dispersé. C'est Leibniz qui le dit et qui l'écrit. Je suis en train de rechercher des choses dans les archives. J'analyse de vieux documents et je recherche des documents non publiés. De ceci, j'espère jeter quelques lumières sur l'histoire des Brunswick. C'est donc la mission que le deuxième duc lui avait confiée. Je reçois et je réponds à un nombre considérable de lettres. Simultanément, j'ai tant de résultats mathématiques, de pensées philosophiques, et d'autres matières littéraires qui ne peuvent souffrir aucun délai, que je ne sais souvent par où commencer. Tout est dit et tout est écrit. Il se lève à 4 heures du matin et il se couche à minuit, comme le faisait Newton. Donc il travaille 20 heures par jour. Alors là, je vais vous faire subir un cours de généalogie fort compliqué. Évidemment, vous n'arrivez pas à lire. Et donc là, je dois faire un petit zoom sur cet abominable arbre généalogique. Alors, que représente-t-il cet arbre généalogique? Eh bien, c'est l'arbre généalogique des Brunswick. Les cases noires ici sont les fameux ducs dont je vous ai montré les portraits. Et c'est ceux qui ont en fait embauché Leibniz, qui ont sponsorisé Leibniz. J'ai souligné ce qui est ombré en gris ici, c'est la trace de la généalogie des rois d'Angleterre, okay, qui se tricote avec la généalogie des Brunswick, puisque Georges Ier, en 1714, deviendra roi d'Angleterre, puisque l'acte d'installation de 1701, fait par le Parlement anglais, a dit qu'on ne voulait que des rois protestants, comme la lignée mâle s'était éteinte en Angleterre, eh bien, on a pris une branche latérale qui était la branche des Brunswick. Ce que je vous expliquais dans la conférence sur Newton. Je vais vérifier si vous avez bien suivi. Et donc là, je voulais mettre en exergue un certain nombre de dames très importantes qui ont été des correspondantes intellectuelles de Leibniz. Premièrement, alors, pas celle-là, puisque au niveau des dates, ça ne fonctionne pas, c'est la reine Élisabeth de Bohême. C'était la correspondante de Descartes. Donc, c'est la génération précédente. Ensuite, vous avez les deux Sophie, dont je vous montrerai les portraits. Sophie de Hanovre et Sophie Charlotte, sa fille, qui ont été des correspondantes très... importante de Leibniz. Et la troisième, c'est Caroline de Brandebourg-Ansbach, qui était la princesse de Galles, c'est-à-dire la femme de Georges II, le fils de Georges Ier, alors qui n'a pas de lien de famille, hormis par mariage, avec ses Sophies. Donc je reviens sur ma présentation. Et les voilà, ces braves dames. Alors Sophie de Hanovre, c'est sa branche qui a donné la lignée, disons, de Georges Ier, et elle a failli être reine d'Angleterre, à un mois près. Elle est morte à un mois avant la reine Anne, parce qu'elle a piqué un 100 mètres à 84 ans dans son jardin pour échapper à un orage. Elle avait 84 ans, alors que la reine Anne n'en avait que 40. Okay. Bon, c'est son fils qui lui a succédé au trône d'Angleterre, donc Georges Ier. Sophie Charlotte de Prusse, donc ça c'est la mère de tous les Frédéric Ier, Frédéric II, etc., et Guillaume, enfin jusqu'à l'empereur, au Kaiser Guillaume. Et la troisième, beaucoup plus importante, puisqu'elle est célèbre dans la correspondance Leibniz-Clark de la fin de sa vie, c'est Caroline de Ansbach, qui était une intellectuelle de haut vol, mais qui avait une orthographe à couper au couteau, comme vous le montre le petit extrait que je vous ai mis. Ok ? J'ai parlé encore au jour de huit avec l'évêque de Lincoln, pour la traduction de votre Théodicée. Il n'y a personne capable de cela, à ce qu'il m'assure que le docteur Clark, dont je vous ai envoyé des livres Parenhausen, ce même homme et ami indime du chevalier Newton, et je ne crois pas la chose en fort bonne main. Donc vous voyez, on se plaint de l'orthographe actuelle. Voilà. Alors, en ayant décrit tout ça, les biographes ont bien des difficultés. Pourquoi ? Eh bien, ce n'est pas par manque de documents, c'est plutôt par abondance, surabondance de documents, puisque j'ai vanté pour Newton l'ampleur de son œuvre. Ici, on en est à 4 ou 5 fois plus en volume. Et aujourd'hui, une autre difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'œuvre majeure publiée de son vivant qui synthétise l'ensemble de sa pensée. La seule qui, au XVIIIe siècle, c'est les nouveaux essais sur l'entendement humain qui ont été publiés en 1765, dont 50 ans après sa mort, qui l'ont commencé à le faire ressortir un petit peu de l'oubli. Et la grande rafale, l'exhumation, on va dire, intellectuelle de Leibniz, elle s'est passée véritablement au XIXe siècle, où il y a eu un recollement de l'ensemble de sa correspondance par différents auteurs et des essais de synthèse et d'exégèse de son œuvre. D'ailleurs, on a fondé dans tous les pays du monde, de l'époque, enfin tous les pays développés, des sociétés leibniziennes pour travailler sur cet auteur. Il n'y a qu'un seul pays où il n'y en a pas, c'est la France. Bizarre. Alors, le premier catalogue dit exhaustif, c'est le catalogue de Bodman, qui date de 1895, et qui a l'énorme avantage d'exister, mais l'énorme inconvénient de ne pas avoir d'index. Et donc, c'est très difficile à manipuler. Alors, aujourd'hui, c'est la bibliothèque de Hanovre, de Basse-Saxe, s'occupe de mettre ça sous informatique et l'aboutissement est prévu en 2040. Pourquoi pas avant ? Eh bien, tout simplement parce que l'adjoint de Bodman était un juif et il lui est arrivé des bricoles. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, le travail en Allemagne s'est arrêté. Les deux guerres ont complètement stoppé les travaux d'érudition autour de l'œuvre de Leibniz. Il y a très peu de traductions, entre autres en anglais. Et les deux grands auteurs du début du XXe siècle, c'est Bertrand Russell, qui a fait un très gros travail sur l'œuvre de Leibniz, et puis de Laval, c'est ça, Yvon B. Laval. Je l'ai mis à la fin, donc qui est un Français, mais à la fin de l'exposé, je vous donnerai une bibliographie détaillée. Alors, qu'a fait Leibniz ? Puisque maintenant on a parlé de l'homme, on va quand même parler de son œuvre, on va tenter. Eh bien, il était très ambitieux. Il voulait inventer une écriture universelle. J'y reviendrai. Il a mis en place, les mécanismes, la généralisation des mécanismes logiques, au sens mathématique du terme. Il avait l'ambition de créer la caractéristique universelle. La caractéristique universelle, c'est un langage symbolique qui puisse représenter aussi bien les choses physiques que les choses intellectuelles, les concepts, les idées. Et ce qui s'est terminé par les monades, qui est l'œuvre de la fin de sa vie, qui était une espèce de synthèse de l'ensemble de cette évolution de sa pensée. On peut dire qu'il était déjà dans sa tête, dans une idée d'encyclopédiste, bien qu'il n'ait pas fait d'encyclopédie en tant que tel. Il a mis, par exemple, des arbres de connaissances, il en a fait dans le cadre de son travail de bibliothécaire. C'était un grand tenant de l'œcuménisme, c'est-à-dire on lui a beaucoup reproché, il était bien sûr protestant, on lui a beaucoup reproché de fréquenter de très près des catholiques, en particulier tous les penseurs français, Arnaud et Malebranche et choses comme ça. Donc vraiment, quand on est un bon luthérien, on ne se commet pas avec ces suppôts du diable. Et il a répété en permanence que la philosophie est mathématique et les mathématiques sont philosophiques. Je fais court, hein, parce que je veux laisser la place à nos exégètes philosophes. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. Les mathématiques. Eh bien, il a fait le premier traité d'algèbre combinatoire. Encore une fois, il ne faut pas donner des paternités uniques dans toutes les découvertes des mathématiques et scientifiques d'une façon générale. Qu'a fait Leibniz, comme l'a fait Newton dans les domaines de la gravitation, il a fait une synthèse, une généralisation. Et donc, c'était un homme qui était clair dans sa tête, et il savait systématiser les connaissances éparses de l'époque, puisque la combinatoire, Pascal en a fait, Descartes en a fait, tous les mathématiciens, Viète, Fermat, etc., etc., en ont fait. C'est lui qui a inventé le mot de fonction, au sens de fonction, au sens cartésien du terme, c'est-à-dire x égale fonction, y égale fonction de x. C'est lui qui a inventé le fait que les inconnus soient les dernières lettres de l'alphabet latin, x, y, z, que les constantes soient les premières lettres de l'alphabet latin, A, B, C, D, etc. C'est lui qui a inventé ça. Et on l'a suivi. Hein. C'est lui qui a inventé le concept de matrice, c'est-à-dire les coefficients de systèmes d'équations linéaires. C'est lui qui a formalisé, indépendamment de Newton, même si on a des suspicions sur le fait qu'il est un petit peu inspiré des travaux qu'il a lus chez Collins du calcul différentiel et intégral, et la notation de ce calcul que l'on a appris à l'école, pour ceux qui l'ont fait, c'est le signe somme, le S allongé pour les intégrales, c'est lui qui l'a inventé, et le dy sur dx pour la dérivée, c'est lui qui a inventé ce signe-là. Petit d veut dire petite différence, infinitésimale. C'est bien plus clair que la notation avec les petits points sur les lettres qu'avait inventé Newton. Il attachait beaucoup d'importance à l'aspect symbolique. On revient à l'écriture universelle. L'aspect symbolique doit, à travers le symbole, on revient un petit peu aux icônes, si vous voulez, de Apple. Hein. L'idée qu'avec un graphisme, il y a une idée qui est sous-jacente et qui permet de comprendre le concept sans l'expliquer. Hein. Nova Methodus Pro Maximis et Minimis, eh bien, c'est son traité de mathématiques sur le calcul infinitésimal. Et surtout, il a inventé ou matérialisé le système binaire. C'est-à-dire de dire, on peut faire des nombres réels avec des 0 et des 1. Et l'idée de mettre un 0 et l'idée de mettre 1, c'est lui qui l'a eu. Il l'a trouvé tellement génial, cette idée, elle l'est, qu'il a dit, il a écrit tout de suite une lettre en disant « Il faut que je fasse frapper une médaille à mon effigie pour que mon génie soit reconnu par le monde entier. » Et il a osé l'écrire. Donc c'est Leibniz tout craché. Hein. Voilà. Mais, en plus, c'est vrai, c'était génial. Et d'où il l'a trouvé? Eh bien, tout simplement, c'est une transposition des hexagrammes chinois, que vous connaissez tous, bien sûr, qui laisse à penser que les Chinois avaient compris dès l'Antiquité ce concept de numération binaire. Alors là, j'ai pas... je me suis fait plaisir, là. Donc, quelques images pour montrer ces travaux mathématiques. La première... chose qu'il a trouvée, c'est l'équation de la chaînette. Alors, mesdames qui avaient toutes des colliers autour du cou, la forme de la chaînette, c'est quelque chose qui excite le bigoudi de tous les mathématiciens depuis l'Antiquité. Est-ce que c'est une parabole, une hyperbole? Non, ben non. Alors finalement, on a trouvé la solution, c'est une chaînette. C'est-à-dire, c'est le nom de la forme de la courbe. C'est une fonction transcendante qui ne ressemble à aucune autre. Donc, c'est lui qui a trouvé l'équation de la chaînette. Alors, après, je vous montre la courbe brachistochrone. Vous aviez jamais entendu parler de cette bête-là. Et de la courbe isochrone. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail. Je vous montre la première. Là, voilà une courbe, la première, là, celle-ci. Là, c'est ce qu'on appelle en termes savants la cycloïde. Et ce qu'on appelait en termes trivial la roulette. Hein. C'est-à-dire, quelle est la trajectoire d'un point? C'est, par exemple, la valve d'une roue de vélo. Quelle est la trajectoire qu'elle décrit dans l'espace quand la roue tourne? Hein. Et voilà. Et ça, eh bien, depuis l'Antiquité, ça excite le bigoudi de tous les mathématiciens. Et en particulier, on cherche à trouver la surface de cette courbe. Et vous connaissez toutes la solution, je ne vais pas trouver Voilà, la surface ici, qui est entre la ligne horizontale et la ligne rouge. Ah, vous connaissez la solution? Ben, je vous l'ai dit, c'est 3 fois la surface du cercle. Pas 3,0, c'est 3 fois exactement la surface du cercle générateur. Voilà. Et c'est monsieur Leibniz qui a trouvé la solution.
Aidé par Pascal.
Oui, oui. En physique, donc, il a clarifié les notions de masse, vitesse et énergie cinétique, vis viva et potentiel, vis mortua. Et donc ça c'est très clair dans son esprit, alors que pour Descartes c'était un peu fumeux, et surtout faux. Voilà, parce que Descartes, disons, avait une méthode géniale, mais avec des présupposés faux, et une méthode géniale, on fait des conclusions fausses. Donc merci monsieur Descartes, mais enfin, qui ne fait rien ne se trompe jamais. Voilà, on en parlera l'année prochaine de monsieur Descartes. Voilà. Alors, malheureusement, M. Leibniz avait un pied quand même encore dans la scolastique et un pied dans l'ère moderne, et lui, il est resté scotché à la théorie des tourbillons de Descartes, c'est-à-dire, il refusait l'idée des forces à distance et des forces dites occultes, comme la gravitation, et il a fait beaucoup de polémiques il a contesté Newton, pas sur ses calculs, mais il a dit vous n'avez rien fait puisque vous n'avez pas expliqué qu'est-ce qui met en mouvement les planètes. Et donc le seul intérêt de la science, c'est que vous nous donniez la raison du mouvement des planètes. Et Newton disait moi je sais pas, je ne la connais pas, mais je peux vous expliquer comment elles bougent. Voilà, donc.
Adressez-vous à Dieu.
Comment?
Il a dit adressez-vous à Dieu.
Oui, bon, enfin. On fera un atelier là-dessus. Je vous l'ai promis la dernière fois. Ça mérite une discussion en petit comité. Et il faut qu'on révise, hein, parce que les scientifiques, on n'a pas la culture philosophique de nos chers philosophes. Alors, la correspondance avec Clark, je la mentionne, et je pense que M. Alcantara, qui va nous faire une conférence là, sur l'œuvre, beaucoup plus détaillée que ce que je peux vous faire ici, va en parler. Donc, c'est une correspondance qui a duré seulement 1 an et demi, tout à fait à la fin de sa vie, donc entre 1715 et 1716. Et Clark était le porte-plume, on va dire, de Newton. Il n'y avait plus de correspondance directe. Et l'intermédiaire, c'était la fameuse Caroline de Ansbach. Bon, là, il y a beaucoup à dire. Alors, donc, là, tous les sujets philosophiques et physiques, enfin, de physique, ont été traités, ont été abordés et ont fait l'objet de discussions et de polémiques. Donc, la logique. Là également, je pense que M. Alcantara rentrera plus dans le détail puisque ça mérite des développements plus élevés. La philologie, donc, il s'intéressait beaucoup aux langues anciennes, donc il connaissait le sanskrit, le chinois et l'hébreu, en plus du latin, de l'allemand, du français, la connaissance de l'anglais, et j'en passe peut-être. Et donc les hexagrammes de Fo Yi, donc le Yi Jing, j'ai pas mis l'image là, mais ce sont effectivement des dessins en forme de rosace, donc qui ont une configuration qui montre avec les traits noirs et les zones blanches des 0 et des 1, qui laisse à penser que le concept de numération binaire était connu des Chinois. Alors, le principe de la raison suffisante, donc c'est aussi un concept qui sera expliqué par notre ami Michel Lepilouer, la raison suffisante, hein. Donc là, ça mérite des développements plus avancés. Principe de la nature et de la grâce fondée en raison, en 1714, et la monodologie, 1714, là j'ai mis un facsimilé de son texte, et donc vous voyez, il n'y avait pas de gomme à l'époque, hein, donc on raturait beaucoup, et donc ensuite, le secrétaire recopie. On arrive quand même à lire. Il écrit plus mal que Newton. Newton, on le lit plus facilement, bien que ce soit encore lisible, mais il faut dire que là, les chaos de la route devaient perturber sa graphie. Voilà. Œuvre théologique. Alors, je vais au troisième, l'essai de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal. Donc, cet ouvrage, j'en dis quand même quelques mots, qui consiste à dire, c'est celui qui a été moqué par Voltaire, en disant, sa thèse, c'est de dire, Dieu a fait le meilleur des mondes possible. Hein. Et donc, Voltaire avait un peu gommé le mot possible, il a fait le meilleur des mondes, et donc c'est comment expliquer avec toutes les catastrophes que l'on observe en permanence et qui vis-à-vis la bonté de Dieu, comment expliquer que Dieu puisse exister en fonction de ça. Donc il a fait tout un ouvrage qui essaye de résoudre cette contradiction. Donc c'est le Théodicée. C'est la justice de Dieu, l'étymologie du mot Théodicée. Œuvre historique. Ah, monsieur Leibniz, vous m'aviez dit que vous feriez une notice biographique sur les Brunswick. 30 ans après, on l'attendait toujours. Et les ducs commençaient à s'énerver sérieusement en disant celui-là, il commence à nous casser les pieds. Et en particulier, une caractéristique, c'est qu'il prend la poudre d'escampette sans demander la permission. Par exemple, quand il est allé voir l'empereur Léopold, il est parti pendant 4 mois à Vienne, et le duc, en rentrant, était exaspéré en disant « Mais qu'est-ce que t'es allé faire là-bas? Tu m'as pas demandé la permission. » Et il a jamais pu savoir qu'est-ce qu'il avait un peu discuté avec l'empereur. C'était quand même un cas, monsieur Leibniz. Alors, Césarinus Fürstenerius, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les ducs sont en même temps des Césars, c'est-à-dire des rois. Donc, c'est la thèse qui consiste à dire l'ambition des ducs d'avoir une couronne royale est légitime. Donc, c'est une thèse. Disons de légitimité de souveraineté des États germaniques. En fait, c'était l'existence du Saint-Empire romain germanique qui bloquait cette chose-là, puisque un empereur n'aimait pas voir des rois sous sa coupe, bien que ce titre d'empereur soit très symbolique. Alors ça, le titre, les fleurs étalées sur la tombe du pape Jean, c'est pas le titre de, enfin c'est un titre que j'ai trouvé sur un ouvrage anglais. Hein. Bon, c'est un ouvrage d'exégèse de la Bible. Alors, Chronicon Holzatier, Principe Edito, donc c'est le l'avant-dernier, là ici, Scriptores Rerum Brunswickensium, travaux biographiques sur la famille Brunswick, les Guelfes. Et en fait, à sa mort, dans ses papiers, on a découvert qu'il avait fait le boulot. Mais comme Newton, il avait un peu le même défaut que Newton, rien n'était jamais fini. C'est-à-dire tout ouvrage avait vocation à subir des révisions et des améliorations. Donc avec ce principe-là, vous ne publiez jamais. C'est pour ça qu'il n'a jamais fait d'ouvrage d'opus magnus. Hein. Et donc, ça faisait quand même trois gros tomes complets. Et ça, il l'avait fait sérieusement parce que Leibniz, avec tout le mal que j'ai dit de lui, c'était un homme sérieux et il a fait des recherches bibliographiques pendant 4 ans en Italie. Il est allé jusqu'à Rome en passant par Aoste, par Mantoue. Et bien sûr, il parlait l'italien en plus. Et il a fait un tract anti-jacobite. Alors, les jacobites, c'est la branche, on va dire, légitimiste. C'est-à-dire qui remonte jusqu'à Jacques VI d'Écosse, qui ont essayé d'éjecter les Teutons qui avaient pris le pouvoir comme roi d'Angleterre. Et ils n'y sont pas arrivés, ils ont essayé pendant tout le XVIIIe siècle. Et donc les révoltes jacobites n'ont pas fonctionné. Leibniz a prétendu qu'il avait été associé dans ses voyages à Londres à la préparation et de l'acte d'installation qui a donné l'exclusivité à des rois protestants de trône d'Angleterre et à l'acte d'union qui était l'union entre l'Angleterre et l'Écosse. Donc la modestie, c'était un sentiment qu'il ne pouvait pas connaître. Hein. Voilà. Autre action, c'est la promotion des sociétés savantes. Alors, malgré ses efforts désespérés pour être membre de l'Académie française, il n'y est jamais arrivé. On a fini par lui donner le titre de membre associé en 1701. Donc la Royal Society, j'en ai parlé. Et il a lancé les Acta Eruditorium. Donc c'était le pendant du Journal des Savants qui était le journal de l'Académie des sciences françaises et des Proceedings of the Royal Society en Angleterre. Alors l'éditeur s'appelait Otto Menke et à peu près 90% des papiers qui étaient dans ces Acta Eruditorium étaient publiés sous des pseudonymes et c'était M. Leibniz qui les écrivait. Les 10% qui restaient disaient, il a écrit plusieurs fois en disant que c'était complètement nul. Et que heureusement, il y avait d'autres contributeurs qui relevaient le niveau de la publication. C'est du Leibniz. Donc, il a réussi à fonder l'Académie des sciences de Berlin. Et évidemment, il ne pouvait qu'en être le président. Et il a essayé de faire la même chose à Dresde, à Saint-Pétersbourg et à Vienne, mais les processus administratifs et bureaucratiques étant ce qu'ils sont, la création de ces académies est apparue après sa mort. Son travail de bibliothécaire, c'était pas seulement un faux emploi, si je puis m'exprimer ainsi, il a vraiment fait des travaux tout à fait novateur dans la méthodologie d'archivage. Et en particulier, il a inventé un système de catalogage. Sans savoir, alors là, il n'a pas copié, puisqu'il en existait déjà un autre à la Bodleian Library à Oxford, que nous irons visiter dans notre voyage en Angleterre au mois de septembre, qui est une magnifique, qui est l'équivalent de la bibliothèque de Wolfenbüttel. Et donc, qui avait inventé séparément un système d'indexation des ouvrages, dont les systèmes actuels s'inspirent toujours aujourd'hui. Il a inventé ce qu'on appelle les résumés, qu'on appelle en français les abstracts, et il a inventé l'architecture des bibliothèques modernes. Et le Nucleus Librarius, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le thésaurus dans la terminologie des bibliothèques, les mots-clés. Voilà une reconstitution de sa machine à calculer. Voilà tout ce qu'il a fait, et tout, le mot est de trop. Il a travaillé sur les moulins à vent, les pompes à eau, le matériel de mine, la presse hydraulique, les lampes, les sous-marins, les pendules. Il a fait beaucoup de travaux de zoologie, puisque je rappelle qu'il est passé par Amsterdam, il a rencontré Leeuwen Hawke, et il a fait, comme a fait Hooke, Micrographia, il a fait un livre qui s'appelle Protogé, et qui est un livre de zoologie et de géologie, et qui a été publié de son vivant, et qui est, qu'on connaît peu, mais qui est un travail énorme. Il a développé une sériculture à Berlin qui a marché et qui a fait une petite industrie de la soie à Berlin. Il fallait quand même le faire. Il a fait des travaux sur la psychologie, sur un service public de santé, sur un système de protection sociale, des travaux d'économiste sur la balance commerciale et les droits de douane, sur la théorie des jeux et de hasard, et sur la science de la communication. Il dormait quand même 4 heures par nuit. Alors là, j'ai fait un tableau que Michel conteste, qui dit, justement, on n'arrive pas à lire, donc comme ça, voilà. Donc, qui est une exégèse qui a été faite par un certain nombre de philosophes, qui essaye de situer les positions de Leibniz par rapport à tous les courants philosophiques de l'époque. Et pour faire court, il est au milieu de tout, puisque à lui-même, il est un système à lui tout seul. Invention du système binaire, calcul infinitésimal, la topologie. La topologie, c'est lui vraiment qui a inventé ce concept-là, c'est-à-dire c'est les mathématiques de position. Ébauche de calcul de probabilité en partant des travaux de Viète, et de Pascal et de Fermat. Alors ça, M. Djebar en parlera, je pense. Alors comme je l'ai dit, en physique, eh bien, il a 10 sur 20. Donc il a bien compris la dynamique, on va dire, la notion de force, d'énergie cinétique et d'énergie potentielle. Par contre, il n'a pas voulu se libérer de l'éther, donc du médium qui existerait entre le... Il n'y a pas de vide, c'est la scolastique la plus pure et dure, donc il y a une substance subtile qui existe entre les corps, qui pousse les planètes et les étoiles dans le ciel. Refuse la transmission d'énergie dans les chocs, intuition que la matière est en fait de l'énergie, donc l'énergie cinétique, et la relativité des mouvements. Et donc aujourd'hui, on lui rend grâce en disant, Newton s'est trompé, c'était l'espace absolu, c'est-à-dire on peut mettre... des graduations quelque part dans l'espace, et puis on peut trouver quelle est la position absolue de tous les corps physiques et la position absolue du temps. Et aujourd'hui, Einstein a remis en cause ce concept-là, et rien, tout bouge par rapport à tout, tout est relatif. C'est la théorie de la relativité générale. Alors là, j'ai fait une liste non exhaustif, puisqu'on a la liste qui est accessible sur Internet des 1150 correspondants. Donc j'ai mis les noms les plus connus pays par pays. Donc j'ai trouvé des lettres qu'il a écrites directement à Louis XIV. On ne se mouchait pas du pied, hein, monsieur Leibniz. Voilà. Donc la plupart de ces noms vous sont bien connus. Hein. Je vous laisse les lire. Donc les pays germaniques, eh bien, ils tapent aussi directement au niveau des têtes, couronnées. Otto von Guericke, bien connu, les sphères de Magdebourg, hein, et c'était en plus le maire de Magdebourg, hein, Hevelius, Mercator, Eckart, donc c'était son secrétaire, et le duo infernal des Bernoullis, les Balois, les mathématiciens balois, qui étaient aussi des caractériels notoires, et qui était dans les polémiques avec Newton, Wallis et les mathématiciens anglais, et qui était du parti, évidemment, de Leibniz. Eux ont beaucoup fait pour faire une science nationaliste, c'est-à-dire il y a un génie allemand, il y a de la science anglaise, il y a de la science allemande, alors que Leibniz, c'est le paradoxe, Leibniz a toujours milité pour un universalisme de la science et de la religion, puisqu'il a essayé de rapprocher les points de vue des catholiques et des protestants. Alors là, je vous ai mis des Italiens beaucoup moins connus, vous le lirez, et voyez, on écrit directement au pape, aux différents papes, il en a connu plusieurs. Et en Angleterre, bien sûr, Oldenburg, Wallis, Newton, Fatio de Duillier, Denis Papin. Bale, oui, Denis Papin, je mets toujours Denis Papin qui est un Français, mais qui a fait l'essentiel de sa carrière en Angleterre, hein, comme je l'ai dit à la conférence de Newton, qui était l'adjoint de Boyle, Hobbes, Guillaume III, la reine Marie, la reine Anne et Georges Ier d'Angleterre, en 1714, Georges Ier a été nommé, désigné roi d'Angleterre, donc Leibniz était toujours vivant. Ce qui aurait été logique, c'est qu'il l'emmène avec lui dans sa cour en Angleterre, même si il n'était pas plus content que ça d'aller en Angleterre. Je rappelle que Georges Ier a toujours refusé de parler l'anglais, hein. Et il communiquait quand même avec ses ministres en latin, mais il a toujours refusé de parler l'anglais. Eh bien, il n'a pas amené Leibniz, tout simplement parce que Leibniz avait osé lui demander d'être l'historien officiel de l'histoire d'Angleterre. Et il a dit, non, quand même, tu pousses un peu, hein, et tu vas rester sagement. D'abord, tu ne fais jamais ce qu'on te dit de faire, et tu finis ton bouquin sur... l'histoire des Brunswick, et après on verra, hein. Mais bon, l'histoire s'est arrêtée là, et quelques autres. J'ai cité Cellarius, le fameux atlas de Cellarius que l'on a vu là, il y a 2 ans déjà maintenant, hein, à la bibliothèque. Spinoza et Elsevier, c'est la grande maison d'édition hollandaise. Alors, ces grands succès, comme j'ai eu l'occasion de le dire au travers de toute l'exposé, c'est un rayonnement intellectuel incontestable dans tous les domaines, mais uniquement dans son milieu d'intellectuel. Comme il a peu publié de son vivant, il n'était pas du tout connu du grand public. Avocat infatigable de l'interdisciplinarité, innovateur fécond et polyvalent, comme j'essaie de le montrer. Les raisons de ses échecs, comme je l'ai également dit, il fourmille en permanence de projets, les matérialise dans des lettres et des mémoires, il bouscule les institutions en place. Ça, c'est le plus gros reproche qu'on lui a fait. Quelqu'un qui est un vibrionnant, évidemment, est très mal vu des bureaucraties en place et on fait tout ce qu'on peut pour lui savonner la planche. Mais il avait tellement de ressources qu'il arrivait toujours à survivre aux différentes chicanes des différentes cours dans lesquelles il a agi. Trop de projets à la fois qui ne sont pas suivis, manque de collaborateurs, entre parenthèses, à sa mesure, bien sûr. L'influence posthume, elle n'a pas été tout de suite immédiate, sauf dans le domaine des mathématiques. Et c'est surtout son disciple Christian Wolff qui a mis en œuvre, alors à travers son œuvre, Christian Wolff, c'est d'ailleurs le premier philosophe allemand qui a fait de la philosophie en allemand. Et c'est pour ça que tous les travaux des humanistes allemands du 19e sont en allemand. Et qui a beaucoup influencé Hegel, par exemple. Et Christian Wolff a mis en forme, on dirait, le fond d'idées de l'œuvre de Leibniz. Donc, comme je l'ai dit, il est perçu comme un symbole du nationalisme scientifique, alors que ce n'était pas du tout sa sensibilité personnelle. Mais ses groupies ont dévoyé son message, malheureusement. Et je rappelle donc qu'il a été moqué par Voltaire, qui était un moqueur et un polémiste impénitent, dans Candide, puisque le docteur Pangloss de Candide, c'est Leibniz qui est chargé à fond en disant c'est l'optimiste béat qui avale toutes les couleuvres et qui est vraiment l'optimiste béat et idiot. Donc voilà des liens. Donc bien sûr, ce document, je le mettrai sur le site. Ce qui est souligné, ce sont les liens hypertexte internet. Si vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur le document correspondant. Ça vous évite de rechercher. J'ai déjà fait le travail. Voilà la bibliographie. Une bibliographie, puisqu'elle est tout à fait volumineuse. Et en particulier, voilà. Des noms, donc Bertrand Russell, celle-là, alors pour préparer ma conférence ici, j'ai cherché évidemment un livre sur Leibniz. Eh bien, j'ai dû mal chercher parce que actuellement, sur tous les sites sur internet, il n'y a aucune biographie, même en anglais ni en allemand, qui existe, qui soit disponible en librairie. Ce qui paraît quand même paradoxal. Donc, j'ai demandé au spécialiste, monsieur Alcantara, qui va venir là, au mois de mars, il m'a dit, la biographie de référence, c'est celle-là, Haydon, qui date de 1985. Et Haydon s'est épuisé. Donc, il n'y a plus que dans les bibliothèques universitaires que l'on peut le trouver, et en anglais. C'est quand même curieux. On attend 2040 que la bibliothèque de Basse-Saxe veuille bien finir de mettre sur une base de données l'ensemble des œuvres de Leibniz. Tous les jours, toutes les décennies, toutes les années, il ressortent des correspondances et des mémoires de l'oubli. Donc les 200 000 pages, c'est un seuil minimal. Voilà à nouveau les voyages de Leibniz. Et en conclusion, donc Leibniz est un homme méconnu en France, hormis des philosophes. C'est un génie protéiforme par son intelligence et l'étendue de la variété des domaines qu'il a abordés. Les exégètes puisent de manière sélective dans l'immensité de ses écrits. Donc ça, c'est une des difficultés, c'est que le domaine est tellement vaste à aborder qu'on ne peut pas synthétiser d'une façon simple la pensée de Leibniz. Et en particulier, on a des preuves. Leibniz avait aussi une composante de diplomate. C'était un diplomate, surtout dans la première partie de sa carrière, et on a des preuves qu'il essayait de ménager ses interlocuteurs. C'est-à-dire, quand il écrivait aux catholiques, il les caressait plutôt dans le sens du poil, et sur le même sujet, quand il écrivait aux protestants, il ne disait pas tout à fait la même chose. Donc, si vous extrayez d'une façon sélective telle ou telle citation, on peut lui faire dire un peu tout et son contraire. Mais, donc, il y a un risque d'instrumentalisation. Je vous remercie.
Je vois que ça vous stresse.
Alors, entre les scolastiques et les modernes, Suarez et Hobbes, on a Leibniz. Entre les cartésiens et les atomistes, on a Leibniz. Entre les mécanistes et les vitalistes, entre les phénoménologues et les réalistes, et les efficients et les finalistes. Voilà. Donc, je vous donnerai ce magnifique tableau pour vos cogitations nocturnes. Et puis, je ne l'ai pas inventé. C'est un travail que j'ai trouvé, bien sûr, dans des documents sur Internet. Y a-t-il des questions philosophiques ou historiques ? Je vais même respecter le... L'horaire à 20 minutes. Extraordinaire. Voilà, c'est rare. Enfin, j'avais moins de planches. Bien, mais je vous remercie et à la prochaine fois. Donc là, cette année, j'arrête de faire des conférences. Hein. Merci. Donc, Dijon, vous pouvez couper l'enregistrement. Merci. Ça marche à Dijon ? Il n'y a plus personne ?